Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de commenter le quatrième texte du jour dans Luc 2, versets 41 à 52. C'est une histoire de temple, de maison de Dieu, c'est une histoire d'enfant, vous verrez par la suite. Et donc c'est un petit peu dans la continuité des textes que nous avons déjà lus ce matin. Donc le texte du jour, c'est Luc 2, 41 à 52. Dans l'évangile de Luc, la naissance de Jésus est ancrée dans l'histoire. Ça commence par « En ce temps-là, l'empereur romain Auguste ordonne un recensement. » Et le lieu de l'événement, la naissance du Messie, est conforme à la prophétie. Bethléem, en Judée, accueille le bébé de Marie. C'est ce que nous venons de commémorer dans le monde de tradition occidentale. Pour le début de la vie de Jésus, Matthieu raconte la naissance à Bethléem, sans détail, la visite des savants venus d'Orient, les rois mages, et la colère du roi Hérode qui l'amène à ordonner un horrible massacre de nouveau-nés. Joseph, Marie et Jésus bébé s'exilent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode qui ne tarde pas. Ils reviennent à Nazareth pour les premières années de Jésus. Luc est le seul à raconter un événement de l'enfance, de l'adolescence de Jésus. Nous lisons Luc 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Chaque année, les parents de Jésus, Marie et Joseph, montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Année après année, Pâques, pour commémorer la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage. Pentecôte, pour commémorer le don de la loi par Dieu et exprimer la reconnaissance pour les prémices des récoltes. Et la fête des tabernacles à l'automne, après la fin des récoltes, pour commémorer la précarité de la vie sous tente pendant la traversée du désert et la protection de Dieu malgré cette précarité. Jésus a été élevé dans la tradition du judaïsme. Ses parents ont eu à cœur de transmettre les valeurs qui font que l'appartenance à un peuple choisi par Dieu soit concrète et visible et pas seulement intellectuelle, spirituelle. Alors à Pâques, on donne de sa personne. On s'organise pour passer plusieurs jours à Jérusalem, avec ses temps forts. On commémore, on se recueille, on chante les psaumes à l'approche du temple. Il est prévu des rites de passage de l'enfance à la maturité. À 12 ans, le statut de l'enfant évolue. Jésus est l'aîné de la fratrie. Sa mère, son père sont attentifs à son éducation, à sa préparation pour qu'il vive son judaïsme malgré l'occupation romaine de la Palestine à l'époque. Rencontre familiale, partage autour des repas, vit en groupe et le jeune Jésus à 12 ans suit le mouvement en acquérant plus d'autonomie. Il est vrai qu'au verset 40, on peut déjà lire « L'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse. » Il paraît qu'on pourrait plutôt traduire par, plus précisément par « se remplissant de sagesse » et la grâce de Dieu était sur lui. C'est la fin des festivités. Tout s'est bien passé, on remballe et retour à la vie quotidienne, à Nazareth. Tout à coup, la panique s'installe. Jésus n'est pas dans le groupe de pèlerins. Grosse inquiétude chez Joseph et Marie. Il en manque un et la nuit va tomber. Qui a déjà oublié, égaré, y perdu un enfant ? Ah, ça arrive. Nous, on a perdu Elisabeth et on a perdu Marc. juste pour. Donc, Elisabeth, c'était sur une plage. Donc, Togo était déjà avec plein de monde. Donc, on allait voir les secouristes. Et les secouristes nous ont dit un enfant qui s'égare comme ça, il marche toujours avec le soleil dans l'œil. Jamais, jamais contre le soleil.
Oui, et puis on l'a retrouvé.
Et donc on a été dans le direction du soleil dans le dos.
Mais ça, c'est
Marc, c'était à la montagne. Et on faisait une promenade, la route était barrée parce qu'il y avait un baltrap dans le coin. Et au lieu de contourner le baltrap, il est parti de l'autre côté. Et en rentrant, on se dit, il est peut-être à la maison où j'attends. Il n'était pas. Tombé de la nuit. Gendarme quand même gendarme, quoi. Donc on est allé voir la gendarmerie. Et puis en causant avec les gendarmes pour savoir, tout à coup il est revenu. Mais ça arrive, faut perdre un enfant. Le temps presse, on réfléchit, on enquête depuis quand n'est-il plus avec ses compagnons de pèlerinage. Les pires idées viennent à l'esprit. Accident, fugue, détournement. La recherche est minutieuse, 3 jours avant de le retrouver. En fait, il est simplement resté dans le temple. Le texte nous parle. Si Jésus semble éloigné, loin de nous, nous aussi, comme Marie et Joseph, nous pouvons faire un effort pour le chercher et nous finirons par le retrouver là où la parole est au cœur, est au centre, dans l'église ou dans la communauté des sœurs et frères. 3 jours d'absence. 3 jours où Marie, sa mère, n'a plus de contact. Cela annonce déjà symboliquement, dès le début de l'évangile, les 3 jours entre l'agonie sur la croix et la résurrection du matin de Pâques. L'enfant est retrouvé à l'intérieur du temple, tranquille, assis au milieu des théologiens, à faire la causette, sans aucune conscience de l'angoisse qu'il a suscité chez ses parents. Il écoute, il interroge les 2 fondements de l'étude dans le judaïsme. Nous avons trop souvent tendance à prendre les règles et les lois, y compris celles de l'enseignement biblique, au pied de la lettre, comme on dit. Alors que la loi donnée par Dieu s'interroge, se discute, s'interprète génération après génération. Et on entend souvent dans nos milieux que nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais sous la grâce, le pardon de nos péchés acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Néanmoins, nous sommes appelés à devenir disciples du Christ et notre façon de vivre est censée refléter son amour pour les humains. Dieu se révèle à nous par sa parole, à travers tout le texte biblique. Si nous avons l'impression que Jésus n'est plus à nos côtés, si nous le cherchons, nous le trouverons là, au cœur de l'Évangile, au cœur de sa parole. Écoutez, interrogez, discutez, argumentez, étudiez. Que des modes actifs. Pour avancer en se confrontant avec d'autres personnes qui, elles aussi, écoutent et interrogent. Et non pas dans une contemplation passive en attente de l'inspiration par le Saint-Esprit. Au XVIe siècle, devant les dysfonctionnements de la société et de l'Église, les réformateurs, à l'imitation de Jésus, se sont interrogés sur la pertinence de coutumes et de traditions par rapport à ce que la Bible elle-même nous dit. En 1517, le jeune Luther affiche son attachement au texte biblique. En latin, on dit « soli scriptura », « seule la parole ». Le texte biblique fait autorité, et non le pape à la tête de l'Église de Rome, ni les traditions et les abus de l'Église officielle de l'époque. Un vent de réforme souffle sur l'Europe christianisée de force. L'accès au texte biblique, le même que celui que Jésus approfondit dès son jeune âge, enrichit les quatre évangiles et des écrits du Nouveau Testament, devient accessible au grand public grâce à l'invention de l'imprimerie. Ceux qui ont le privilège d'avoir appris à lire peuvent se plonger à la source des Écritures. Un peu comme Marie et Joseph qui, au bout du bout de leur recherche, reviennent au temple, là où la parole est étudiée, discutée, interprétée. À Zurich, en 1525, les idées réformatrices font leur chemin. Et un groupe de personnes pense que l'Église, pour être fidèle à l'enseignement du Christ, doit être un rassemblement de disciples, hommes et femmes, disciples de Jésus, confessant publiquement leur foi par un baptême d'adultes et non un baptême systématique de nourrissons. On les appellera les anabaptistes et l'année prochaine, il y aura des commémorations. 1525-2025. Dès l'âge de 12 ans, Jésus s'est confronté aux institutions aux traditions du judaïsme de l'époque. Il dira plus tard, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » À 12 ans, il est déjà grand en sagesse, nous l'avons vu au verset 40. Jésus avait une intelligence particulière des Écritures et des commentaires. La liberté dont il fera preuve vis-à-vis des coutumes religieuses s'enracine dans une connaissance parfaite de sa tradition. Lorsqu'il interpelle les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi durant son ministère, il ne réagit pas intuitivement ou par inspiration spontanée, mais il peut interpeller avec autorité tous ceux qui utilisent la tradition religieuse pour leur propre bénéfice, en totale contradiction avec ce que Dieu souhaite pour son peuple. Lire ensemble les textes bibliques est au cœur de notre foi. La société change, le XVIe siècle n'est pas le XXIe siècle, mais le défi reste le même. Quelle orientation pour notre vie de disciples en restant fidèles et obéissants à l'enseignement des Écritures, dans une société qui évolue, dans un monde qui change. Revenons à notre texte. Les parents ébahis ou saisis d'émotion retrouvent l'enfant de 12 ans assis dans le temple au milieu des maîtres. Après 3 jours de recherche, à 2 doigts d'exploser intérieurement, ou même extérieurement, Marie se maîtrise. Une simple petite question. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et à l'aveu, nous te cherchons avec angoisse. Nous sommes dans la vraie vie. C'est ce qui souvent est le plus intéressant dans le texte biblique. Jésus a 12 ans, s'émancipe et poursuit son chemin de vie au-delà du cercle familial. Nous n'en tirerons pas une leçon d'éducation pour les enfants, mais globalement, lorsque Dieu permet au couple de s'occuper d'un enfant, c'est bien pour qu'il devienne un individu équipé pour aller son propre chemin en adulte autonome et responsable, même si l'attachement familial demeure. En l'occurrence, Il n'était pas question de laisser Jésus à 12 ans avec les docteurs de la loi, mais c'est retour à la maison. Peut-être au pas de course pour rattraper le temps perdu, mais le texte ne le dit pas. Pourtant, Jésus répond, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon Père ?» Les 3 jours d'études approfondies des textes bibliques ont probablement accentué chez Jésus le fait qu'il n'était pas un humain comme un autre. Il a probablement pris conscience qu'il était le Messie annoncé par les prophètes, devenant un acteur majeur du plan de rédemption de l'humanité voulu par Dieu son Père. Mais Jésus ne brûle pas les étapes. Sa préparation pour son ministère est encore longue. Soumis au verset 51, il retourne avec Joseph et Marie à la barque. Le texte insiste sur les réactions de Marie, la maman. Elle retenait toutes ces choses, entre l'annonciation par l'ange de la naissance du Fils de Dieu, la visite des bergers à Bethléem autour de la crèche, et maintenant que Jésus vient de leur donner une grosse frayeur, Marie retient ces choses dans son cœur. Marie médite. Elle relit les événements pour écouter ce qu'ils lui apprennent sur Dieu et sur son enfant. Elle ne comprendra pas toujours son fils, mais elle sera à la croix à l'heure où les disciples l'auront abandonné. D'une manière générale, la mise en relation d'événements et de paroles qui ont lieu dans des temps différents permet souvent de donner du sens, de voir plus clair sur une situation et de discerner les vraies fidélités. Aucune alliance à la situation politique contemporaine locale. Je relis. D'une manière générale, la mise en relation d'événements et de paroles qui ont lieu dans des temps différents permet souvent de donner du sens, de voir plus clair sur une situation et de discerner les vraies fidélités. Verset 52, « Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. » Avant cette expérience, il était déjà dit que l'enfant grandissait, devenait fort et se remplissait de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Nous l'avons déjà évoqué. Jésus n'est pas présent au monde comme un dieu grec ou romain. Il a réellement rejoint notre humanité en passant par tous les stades du développement de chaque être sans brûler les étapes. Nouveau-né, jeune enfant, adolescent, jeune adulte et finalement martyr au bénéfice de tous les humains avant de vaincre le mal par sa résurrection et de rejoindre son Père pour un jour revenir sur terre pour que les humains vivent en paix les uns avec les autres sur une planète qui ne dysfonctionnera plus. Pour conclure, les 2 premiers chapitres de Luc sont indispensables pour que la réalité de Jésus soit ancrée dans l'histoire et pour que, à la fois la divinité, le fait d'être fils de Dieu, et l'humanité, le fait d'être mis au monde par Marie, soit incontestable. Au cours de l'histoire, plusieurs tendances ont cherché à minimiser l'une ou l'autre de ces qualités chez Jésus. Il en découle des mauvaises interprétations des faits et gestes du ministère de Jésus. Pour nous qui sommes attachés au texte biblique, nous nous rendons compte que Jésus a passé sa vie à expliquer à ses disciples et à la foule le sens profond des lois que Dieu a données à Moïse. Pas forcément une application à la lettre, mais une mise en œuvre du respect de cette loi dont l'objectif suprême n'est pas seulement de nous faire prendre conscience de notre état d'humain marqué par le péché, mais que l'application des principes de cette loi permettent aux femmes et aux hommes sur terre de vivre en paix, de combattre les injustices, de soulager la misère. C'est l'annonce des anges dans la nuit de Noël. Paix sur la terre parmi les humains que Dieu aime. Poursuivons sur ce chemin avec cette année 2024 qui arrive à son terme et pour 2025 qui pointe à l'horizon. Que Dieu vous bénisse, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.